Vous êtes sur RTL.
RTL. 22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Après cette soirée foot sur RTL, très heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous avec la petite équipe qui m'entoure. Marc à la réalisation de l'émission et Caroline et Paul qui sont impatients de vous accueillir au standard de Parlons-nous. Alors sans plus attendre, je vous invite à appeler au prix d'un appel local le 09 69 39 10 11 pour me parler. Tous vos appels sont les bienvenus et vos réactions aussi par SMS au 64 900 avec les trois lettres d'RTL au début de votre message, 35 centimes par SMS. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Charlotte.
Ah, bonsoir Caroline.
Et bienvenue. Vous avez la Merci surprise beaucoup. De vous retrouver à l'antenne. Ah,
non, j'étais en train de... Non, je savais que j'allais arriver, mais je faisais des inspirations, des expirations pour...
Ah, pour vous détendre.
Oui.
Mais oui. Non, vous allez respirer un grand coup. Ah, vous allez voir, voilà. Tout va bien se passer.
Je suis très contente de vous avoir au téléphone.
Moi voilà. Aussi.
Merci. Voilà, moi j'ai 62 ans, j'ai une amie qui date depuis qu'on a 18 mois. Voilà.
Ah oui, oulala.
Ouais,
vous êtes connues, vos mamans se connaissaient
ouais.
Alors
ben, c'était, en fait, on était dans l'école du village ensemble et puis on allait très très tôt,
oui.
Nos parents nous mettaient très tôt et puis on s'est rencontrés là et voilà, on
D'accord.
s'est
précipités. Ah,
mais
oui.
non, nos familles ne se connaissaient pas forcément, c'est nous deux.
Bon.
Voilà.
Donc, une très longue histoire d'amitié.
Oui, oui, oui. Mais bon, voilà, il y a un petit souci parce que, voilà, elle a entamé une relation avec un de mes frères, mon frère aîné. Bon, ça, il n'y a pas de problème et tout. Et puis, au bout d'un certain temps, elle est arrivée une fois complètement défaite. Elle pleurait, elle était anéantie, vraiment. Et j'ai découvert une facette, enfin, en les côtoyant un petit peu, j'ai découvert aussi des facettes que je ne connaissais pas de mon frère intime et de elle intime dans un couple, quoi, hein.
Oui,
même
oui.
qu'elle y avait déjà été. Mais bref, elle vient et c'était dramatique, quoi. Elle m'a raconté des trucs, j'ai dit, waouh, j'ai découvert aussi des trucs sur mon frère que je connaissais pas. Enfin, bref. Et moi, je restais toujours un peu à l'extérieur quand j'écoutais, et voilà.
Oui.
Mais bon, c'était tellement grave et tout que, elle est repartie chez elle, parce qu'on était descendu dans le Var, voulait s'installer et tout.
Oui.
Elle est repartie chez sa maman. Et puis au bout de quelques... moi je la soutenais toujours, je soutenais mon frère aussi de loin, comme ça, vous voyez, je ne connais... sais pas prendre parti.
Oui.
Et puis là, elle m'appelle dernièrement, c'était le mois de janvier, elle me dit, ah, j'ai quelque chose à te dire et tout, et je dis, ouais, quoi. Ah ben on va réessayer avec ton frère. Ah ben moi ça m'a choquée parce qu'elle était dans un tel état, mais bon, j'ai dit, écoute, si tu le sens comme ça, vas-y, quoi. Mais alors moi depuis, je disais à Paul, j'ai l'impression que vous savez que l'amitié c'est comme un amour, quoi. Il y a des étapes et que là, moi, c'est plus l'amitié, et ça me tracasse parce que elle cherche le contact et moi je ne le veux pas. Je veux pas trop côtoyer mon frère et si je veux l'avoir, elle faut que je côtoie mon frère. Mais elle, ça reste superficiel parce qu'elle a remis ça, vous voyez. Parce que le truc c'est que elle a été mariée avant.
Oui.
Elle a divorcé parce qu'il n'était pas correct du tout, mais elle a duré, ça a duré, ça a duré. Et puis, quelques temps après, elle s'est remariée avec le même.
Ah, elle s'est remariée.
Et de nouveau redivorcée.
D'accord.
Et là, rebelote. Et je me dis, mais bon sang, quoi. Et j'ose plus lui dire maintenant des choses comme je lui disais avant. Parce qu'il y a mon frère.
C'est plus compliqué, il s'agit de
voilà.
votre frère. Eh oui.
Ben oui. Même que bon, il a baissé dans mon estime, mais ça reste mon frère. Et je me dis, bon, voilà, c'est leurs affaires et tout. Mais je n'arrive pas à passer outre. Et moi, il me faut toujours du temps pour tout. Mais là, quand même, le temps, il passe. Et malgré tout, bon, elle vient, elle fait des trucs d'approche. Ah, je peux venir pour coudre aussi. Et elle vient, mais j'arrive pas. Et je suis angoissée de ça. Et j'arrive pas à lui parler comme je devrais lui parler.
Oui.
Et je sais pas trop quoi lui dire. Et après, je me dis aussi, est-ce que cette situation qui m'angoisse tant, parce que j'avais plus d'angoisse depuis que je suis descendue ici dans le Var, je suis heureuse, je suis bien,
oui,
je suis légère, Et là, je suis de nouveau angoissée. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi, peut-être, que je dois peut-être encore régler, parce que je connais hein, les séances de psy, tout ça, machin.
Oui.
J'en ai fait longtemps. Et je me dis avec Caroline, on va discuter et elle va peut-être m'aiguiller peut-être vers une idée ou une façon de réagir ou je ne sais pas trop.
Mmh. Oui, c'est-à-dire que vous sentez très angoissée
oui.
depuis, mais vous ne comprenez pas très bien pourquoi.
Oui, voilà. Parce
pourquoi cette angoisse
fait, oui, parce que en fait, le truc, c'est que moi, je me suis détachée vraiment d'elle.
Oui.
Mais elle réagit comme si s'il n'y avait rien eu, quoi. Vous voyez.
Oui.
Oui. Et c'est ça qui, c'est cette blessure. Parce que quand ils étaient séparés, je lui ai dit, moi j'étais anéantie parce que ça m'a fait mal pour toi.
Oui.
J'ai découvert des trucs sur mon frère, donc moi j'ai digéré tout ça. Voyez
oui. Oui.
Et ça m'a vraiment, oh là là, ça aussi. Mais ça a été. Mais ça, qu'elle remette le couvert,
oui.
comme elle a déjà fait, et refait. Et on se le dit des fois. Oui, des fois, ah ouais, oui, je revis cette situation-là, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre, vous voyez. Et là, ben...
Oui, voilà. Mais ça serait, c'est plus simple. Vous me parlez de son mari, c'est plus simple quand c'est quelqu'un d'extérieur à votre cercle familial, enfin quelqu'un de moins proche, de moins intime.
Oui, tout à fait. Vous pouvez me lâcher, quoi.
Voilà, bah, bien sûr, comme une amie peut le faire et exact. Dire, écoute, comme vous dites, vous lâcher, c'est-à-dire parler franchement.
Oui.
Vos
besoins,
lui dire que, bon, le comportement de cet homme, ça n'allait pas, ou le sien, bon. Là, c'est une situation qui est complexe. Pour vous,
oui,
parce que c'est à la fois votre amie et une amie de très longue date, mais ça concerne aussi votre frère.
Oui.
Et comme vous dites, quand elle est venue chez vous parce qu'elle était dévastée suite à une dispute, elle vous a révélé des choses qui vous ont fait découvrir une autre facette de votre frère, évidemment, dans une dimension intime, un frère que vous ne connaissez pas. Et heureusement d'ailleurs un frère qui est l'amant d'une femme, le compagnon, bon, donc des aspects que normalement on ne connaît pas fond,
non,
qu'on n'a pas à connaître,
Exactement.
Et tout ça est bouleversant.
Oui. Vraiment.
Parce que et n'a pas été sans conséquence sur vous puisque vous me dites que votre frère a baissé dans votre estime, même s'il reste. Eh oui.
Ah oui. Donc, vraiment. Ouais. C'est que du superficiel si on se rencontre ou quoi. Ah oui, bonjour. J'ai plus le truc sincère qui vient de mon cœur, quoi. Okay.
Avec elle ou avec votre frère?
Les deux.
Avec les deux. Ouais. Et votre frère, lui, ne se confie pas à vous.
Ah oh ben, et attends, si. Alors quand ça a été fini, alors lui il venait et puis ah oh oui, mais tu sais, elle est malade, elle fait de la dépression. Et là, j'avais l'impression d'entendre mon père qui disait ça de ma mère quand il y a quelque chose qui allait pas.
Ah oh,
elle fait de la dépression.
Ouais.
Oui, ben c'est jamais lui, c'est elle qui est malade, quoi. C'est comme ça, on se remet pas en question et tout. Donc il me disait des trucs sur elle et que je devais pas dire, et puis elle me disait des trucs sur lui et que je devais pas dire. Oh là là.
Oui, c'est une situation impossible pour vous.
Oh là là.
Vous pouvez pas être la confidente de deux personnes dont vous êtes aussi proche.
Non.
Pour des raisons différentes.
Oui.
Et là, en fait, aussi, ce qui vous angoisse, c'est que vous avez mis de la distance pour vous protéger avec cette amie, et elle agit avec vous comme si de rien n'était.
Oui.
Oui, elle n'a pas mesuré la portée de ses confidences sur vous.
Non.
Vous pensez
voir comme on faisait avant, une fois par semaine et ça. Oh, mais si oui, on verra. Puis j'appelle jamais.
Il y a combien de temps qu'elle est avec votre frère? Enfin, c'est une relation récente.
Qu'ils sont remis là. Ça datait de l'année dernière. Et puis ça a été fini mois de novembre, décembre, comme ça. Et ils sont remis là, c'est tout frais, quoi. Ça fait un mois. Et en plus, elle me dit, oh, mais tu sais, t'es chacun chez toi, t'inquiète pas, machin. Et puis finalement, ben non, elle reste quand même à 24. Donc, elle se laisse. Moi, pour moi, elle se soumet, quoi. Même si c'est inconscient ou quoi, elle s'écrase. Quoi. Et puis, voilà, et vas-y, quoi. Et moi, je peux pas lui dire ça.
En fait, vous êtes déçus? Ils vous déçoivent l'un et l'autre? Ou l'un plus que l'autre?
Bah, je suis pas, je suis pas déçue qu'ils me déçoivent. Ça me rend triste que...
Qu'est-ce qui vous rend
pour
triste?
Elle, plus pour elle, bah, qu'elle fait un remake
oui.
de sa vie d'avant et qu'elle se soumette de nouveau. Quoi.
Oui. Et ça, si c'était un autre homme que votre frère, vous pourriez lui dire. Vous pourriez lui dire. Donc, si vous ne le faites pas, c'est parce qu'elle est avec votre frère et un peu par loyauté vis-à-vis d'autres frères.
Oui.
Oui, je comprends.
Il faut rester loyal partout. Mais oui, mais moi, je me bouffe, moi, de mon côté.
Oui, c'est ça qui ne va pas pour vous. Ben c'est qu'au fond, cette histoire est en train de vous bouffer, comme vous dites.
Ah oui. Ouais. Ah oui. Vraiment. Et Caroline, c'est pire en pire parce que je dors mal. Alors, j'avais bien baissé mon traitement. Je re-augmente un petit peu. Vous voyez, je suis pas mal, mais hyper mal. Hein. Mais je suis pas bien.
Vous êtes oppressé, au fond. Ça vous envahit, en fait.
Oui, voilà, ça m'envahit.
C'est trop envahissant pour vous.
Ouais, vraiment.
Est-ce que à votre ami, vous ne pourriez pas lui dire, écoute, c'est compliqué pour moi, compte tenu de la relation que j'ai avec toi et de la relation que j'ai avec mon frère, d'entendre des confidences. Je vous aime tous les deux.
Excusez-moi, Caroline. J'ai dit, maintenant, Evelyne, ok, t'es avec mon frère, mais je ne veux plus rien savoir.
Ah, bah, c'est bien, vous lui avez dit des choses alors.
Oui, mais c'est la relation de elle et moi, et de elle et de moi et mon frère qui végète, là, voyez. Ça, j'ai mis au point. Il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce qui végète? J'ai pas compris.
Nos relations, vous savez, nos trucs de filles, tout ça, c'est fini pour moi, tout ça.
Vous ne pouvez plus avoir une complicité avec elle, comme auparavant.
Et voilà. Et c'est ça qu'elle attend, et j'arrive plus à lui donner.
Vous lui en voulez, au fond, un peu?
Ouais, peut-être quand même.
Oui, un peu.
Ouais.
Vous lui en voulez peut-être, vous me parlez de soumission.
Oui.
Moi, vous la trouvez trop soumise à votre frère? Enfin, dans ses relations amoureuses, de façon générale.
Dans ses relations amoureuses, parce que je suis convaincue qu'elle discute et elle ne se laisse pas faire.
Oui.
Peut-être qu'elle a quand même pris des leçons du passé, hein, et que ça va bien se passer. Mais moi, ça m'a mis par terre, quoi. Par rapport à ses expériences passées. Après, c'est la sienne. Je me dis, mais pourquoi, Christiane, pourquoi, Charlotte, tu te mets dans un état pareil pour un truc qui ne te concerne même pas, finalement?
C'est une bonne question.
Ben, c'est ça.
Pourquoi ça vous remue autant? Alors, vous m'avez dit à un moment que les propos de votre frère, en fait, il disait elle est mal, elle est en dépression.
Oui.
Ça vous faisait penser à votre père quand il parlait de votre mère. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous angoisse aussi, que ça réactive un peu des choses vécues?
Ah oui, vous avez raison, parce qu'il y a des choses que je suis en train aussi de réactiver. Parce que vous voyez, mon père, j'ai fait tout un travail là-dessus, mais je vais vous dire en deux mots que moi, j'ai cru que mon père était malade quand moi je suis née, est tombé dans la dépression quand moi je suis née.
Oui.
Et je l'ai cru pendant des années. Et plus tard, loin, j'ai perdu. J'ai appris qu'en fait, c'était parce qu'il avait complètement changé d'attitude, il avait découvert la religion et qu'il se donnait au travail. Et en plus, il allait aider à construire une église. Enfin, et qu'il était tombé dans la dépression parce qu'il était trop fatigué. Et moi, pardon. Et alors, aussi, parce que moi, je suis venue en cinquième et il y avait d'abord trois garçons et puis une fille et puis moi. Et j'étais tellement grosse, je faisais presque 5 kilos, j'avais plein de cheveux et tout le monde était la petite. Et alors lui, il a décidé de préférer ma sœur. Et un jour, j'étais adulte aussi, quand j'ai fait mes séances de psy, il y a plein de choses que j'ai demandé. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu m'as préférée? Parce que moi, j'ai toujours eu peur de mon père. Toujours.
Toujours
craint. Oui. Et pourquoi, j'en sais rien, mais bon, il avait qu'à me regarder, ça y est, j'avais peur, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, même que j'avais rien fait. Eh ben, il m'a dit, t'avais le monde entier qui t'aimait, donc t'avais pas besoin de mon amour. Paf!
Ouh.
Vous vous rendez compte? Ouais. Mais il m'a même pas dit après, je me suis trompée. Non, c'était comme ça.
Oui.
C'est fou, hein?
Oui,
ça me reste quand même.
Mais je comprends que ça vous reste. Parce que c'est pas une réponse. C'est pas une réponse, parce qu'au fond, il répond à côté. Dire que le monde entier vous aimait, oui, donc il n'avait pas besoin. Et c'est pas entendre vos besoins. Même si vous étiez aimé par votre mère,
par plein de monde.
Parce vous que aviez besoin de l'amour de votre père également.
Bah, exactement, oui. Exactement. Bah, vous savez, Caroline, je me suis mariée avec un garçon de 15 ans plus que moi plus tard. Bon, après, il est décédé, mais pour dire, je pense qu'avec le recul, bah, quelque part, je cherchais quand même ce père. Vous voyez, c'est vrai, hein. Quand on fait un raccourci peut-être. Comme ça.
Et est-ce que dans les confidences que vous a fait votre amie au sujet du comportement de votre frère vis-à-vis d'elle, il y a des choses qui vous ont fait penser à votre père dans le comportement de votre frère ?
Oh, juste les réflexions là, en fait. Ça m'a vraiment...
Les réflexions ?
Les réflexions là, quand il disait, quand à moi, il me disait qu'elle faisait de la dépression, qu'elle était malade, qu'elle devrait aller voir un médecin, machin.
Et quel rapport, j'ai pas compris, avec votre père ?
Parce que mon père, en fait, c'est lui qui était le dépressif de la maison.
Oui.
Et c'était toujours ma mère qui était malade, quoi. Et il fallait qu'elle aille voir quelqu'un.
Ah, c'est-à-dire que votre père, au fond, était dans un déni de sa dépression et disait que c'était votre mère qui allait mal.
Oui.
D'accord.
Voilà, exactement. Oui.
Et vous, en plus, c'est pas rien de penser que vous avez toujours cru, me dites-vous, que c'est lorsque vous êtes née que votre père était en dépression. Enfin, comme si vous faisiez un lien avec votre naissance.
Oui,
avec,
oui, complètement.
Alors que vous avez après compris, grâce à un travail sur vous-même, qu'il y avait bien sûr d'autres raisons à sa dépression, avant même votre venue au monde.
Exactement, oui.
Et avec ce frère-là, donc, qui est le compagnon de votre ami, quelle relation aviez-vous avant qu'il soit avec votre ami ?
Pas hyper,
correct,
fraternel, mais pas...
Correct, oui, ça dit beaucoup. C'est-à-dire pas plus proche que ça.
Non, parfois, par moments, oui, on a été plus proches. Donc, quand j'avais 50 ans ou quoi, parce qu'il était tout seul aussi, et puis voilà. Mais non, c'était pas... J'étais beaucoup plus proche des deux autres.
D'accord. Et en quoi il vous a déçu, votre frère, si c'est pas indiscret, quand vous dites qu'au fond, il a baissé dans votre estime, après les confidences de votre ami ?
Bah, parce qu'il ment.
Il ment.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la même version selon votre ami et selon lui.
Voilà. J'ai plus confiance en mon ami.
Oui. Mmh. Ah oui. Parce que vous savez, dans un couple, chacun a sa part de vérité. Avec, parfois en toute bonne foi. C'est-à-dire qu'au fond, dans une histoire de couple, parfois, s'il y a des tensions dans le couple, on a l'impression qu'ils n'ont pas vécu la même histoire. Mais parce que chacun détient sa part de vérité, au fond.
Ah oui.
Votre mère, elle était. Vous me dites donc que votre père disait que c'était elle qui allait mal, et vous, quel regard portiez-vous sur elle ? Quelle relation aviez-vous avec elle ?
Avec ma mère ?
Oui.
Oh, j'étais un bonbon, ma mère.
C'était un bonbon.
Ma mère. Ouais, mais ma mère, elle a eu très vite 5 enfants et elle a estimé qu'on suffisait à nous-mêmes. Alors elle nous a quand même un peu toujours gardé un peu trop autour d'elle. Et puis ils étaient dans la religion et comme mon père avait tellement changé en bien, donc on a été éduqués là-dedans.
Brutalement, ils se sont mis dans la religion ?
Oui, elle était enceinte de moi.
Mais dans quelle religion ?
Apostolique.
Apostolique ?
Oui. Et bon, bah voilà, du coup, on faisait pas plein de temps. Il y a plein de trucs qu'on faisait pas, hein. Pas de cinéma, pas de ça, faut pas acheter une maison. Quand j'ai dit reviens, là, moi je l'ai cru.
Alors attendez, apostolique, mais alors attendez là, parce que moi je suis pas très férue en matière de religion. Parce que c'est rare que dans les religions on interdise d'aller au cinéma. Et...
Ah, mais pas dans les trucs où on s'amuse et qu'on pense pas à Dieu. Et...
Mais
ah
c'était.
Ouais, non, quand j'étais petite,
c'était les témoins de Jéhovah, c'était.
Ah non, c'est néo-apostolique, c'est chrétien.
Oui.
Avec des apôtres vivants, quoi. Oui, que ce soit les apôtres.
Les apôtres vivants, d'accord.
Il y en a qui sont là sur la terre. Bon, maintenant, c'est derrière moi et j'avais mis des années aussi à lâcher. Hein.
Oui. Mais, ça n'a pas dû être facile, d'évoluer dans un environnement comme celui-là. Non. Où en fait, il y avait beaucoup d'interdits autour de tout ce qui était de l'ordre du plaisir, au fond.
Voilà, et pas de vie sociale et tout ça. C'est pour ça que mon amie, elle a vachement compté. Parce que c'était un peu ma porte ouverte
sur
le monde, quoi.
Oui, je comprends. Est-ce que ça vous rend triste, au fond, de ne plus avoir cette complicité avec elle ?
Ben, un petit peu, parce que c'était chouette. Hmm. Mais là, maintenant, ça, c'était quoi votre question ?
Non, je vous demandais si ça vous rendait triste d'être moins proche d'elle, au fond, d'être moins complice, d'être un peu empêchée.
Disons que triste, non, c'est disons que ça manque, mais je pourrais m'y faire, vous voyez ? Si ça ne me traversait pas autant...
En fait, vous éprouvez le besoin de mettre de la distance ?
Oui.
D'accord.
Mais j'ai une certaine culpabilité, mais moins maintenant. Maintenant que je parle avec vous, j'ai moins de culpabilité. Parce que je crois que j'oserais dire
que cela a été perturbant pour vous ?
Oui.
Oui ?
Que tout ça, ça a été trop dur pour moi et que... Mais moi, je me demande, Caroline, est-ce qu'en amitié, c'est pas comme en amour ? Est-ce que l'amour, il peut pas... Parce que l'amour, des fois, ben voilà, c'est tout feu, tout flamme, et puis voilà, ça s'éteint un peu, puis ça devient de la tendresse. Bon, ben, en amitié, on peut aussi avoir une autre sorte d'amitié, moins ensemble, faire moins de choses.
Oui. Elle évolue, voilà. Elle évolue aussi. Voilà. C'est une relation qui est vivante par définition.
Ben voilà.
Donc entre cette relation que vous décrivez dès l'âge de vos 18 mois et aujourd'hui, entre l'amitié de l'enfance, puis de l'adolescence, puis des débuts dans l'âge adulte, puis de la maturité, évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que même des amis pour qui on peut garder une place très chère dans notre cœur, mais on a évolué tellement différemment qu'on n'a plus grand chose à partager. Cela arrive parfois.
Oui, comme dans les couples.
Oui, oui.
Moi je crois que c'est ça. Il faudrait peut-être. Vous croyez que je dois lui dire à ma copine ?
Lui dire quoi ?
Bah que on a évolué différemment comme dans un couple et que voilà, moi je suis plus parce qu'elle est toujours dans l'attente quoi. Elle dit je peux venir pour ci, je peux venir pour ça. Voilà quoi, moi j'ai pas envie.
N'ai pas envie.
Je sais plus quoi lui dire.
Mais ça semble être, c'est quand même très lié à l'histoire avec votre frère, non ?
Ah ouais ?
Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous ressentiez cela déjà avant qu'elle soit avec votre frère ?
Ah non.
Vous voyez.
En fait, c'est le fait que c'est quand ils ont rompu et j'ai vu dans quel état elle était.
Oui.
À la petite cuillère que j'ai. Waouh, quoi. Et qu'elle se remette.
Et alors, pourquoi. Ça serait un autre homme, vous pourriez lui dire.
Oui.
Comme vous l'avez fait par le passé avec son mari, en disant, et comme peut le faire une amie. Une amie n'est pas toujours là pour dire des choses que l'on a envie d'entendre.
Absolument.
Ça sert à ça, les amis, aussi.
Exactement.
Hein, pas toujours à nous brosser dans le sens du poil.
Ah, non.
Donc, comme vous l'avez fait avec son mari, vous lui avez dit, écoute, au fond, vous étiez dans l'incompréhension de la voir revenir vers lui, alors qu'au fond, vous ne la sentiez pas très heureuse. Bon. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ce qui se passe dans un couple nous échappe, au fond.
Oui. Hein,
même si on est très proche, le couple reste toujours énigmatique, au fond. On ne sait jamais, on n'est pas dans ce lien. Donc, mais vous avez pu lui dire, et donc du coup, ça ne vous étouffait pas. Alors que là, comme il s'agit de votre frère... vous n'osez pas lui dire parce que ça vous culpabilise d'au fond dire quelque chose sur votre frère.
Mais
vous pouvez le dire différemment, c'est-à-dire sans attaquer votre frère. Vous pouvez, ce que vous me dites finalement, Charlotte, c'est-à-dire dire, écoute, je t'avoue que je m'interroge, que je suis un peu perplexe, parce que je t'ai vue il y a quelques mois dévastée, extrêmement malheureuse. Et là, je suis étonnée de voir aujourd'hui que tu recommences cette relation. Bon, c'est ton choix, mais c'est vrai que j'avoue que je ne comprends pas. Mais, et après tout, c'est son choix. Voilà, c'est son choix, ça la regarde, ça les regarde. Et au vu de cela, vous pourriez lui dire, écoute, moi, je n'ai pas à prendre position. Jusque-là, je n'ai pas voulu prendre position parce que vous comptez tous les deux pour moi différemment, mais vous comptez. Mm-hmm. Et je préférerais, parce que là, j'ai un peu ça sur le cœur, j'avais besoin de te le dire. Et je préfère, en tout cas, ne plus être dans votre intimité, ne plus recevoir de confidences.
Oui.
Et dire la même chose d'ailleurs à votre frère, mais lui ne le fait pas. Mais vous pouvez lui dire, et j'aurai la même réflexion avec mon frère. Ça permet déjà un peu dire ce que vous avez sur le cœur.
Et de prendre de la distance avec elle, je ne peux pas lui dire ça.
Si, bien sûr que vous pouvez lui dire.
Hein?
Okay. Que vous éprouvez le besoin de prendre un peu de distance, que tout ça vous a remué et perturbé.
Oui, d'accord. Oh, bah écoutez, je me sens déjà plus sereine là. J'ai pris quelques notes comme ça après.
Ah oui, ouais. Bah, vous pouvez réécouter en podcast. Hein, sur,
ah oui, c'est vrai.
Voyez, sur RTL.fr oui. ou sur l'application RTL.
Oui, je ferai ça.
Et puis, mais si, ben... si, bien sûr, vous avez parfaitement le droit de prendre un peu de distance, si vous en ressentez le besoin, et pour être oui. moins angoissée, surtout.
Mais oui, parce que je la sens dans l'attente. Alors, oui, si oui, je oui. lui dis ça, elle sera moins dans l'attente.
Mais oui, mais parce qu'être être avec votre frère, de fait, c'est pas tout à fait anodin. C'est aussi une façon de se rapprocher de vous. Donc, elle peut avoir encore plus besoin de vous. Et comme il s'agit de votre frère, besoin de se confier davantage. Et donc, il faut qu'elle entende de votre bouche que vous, ça vous met dans une situation très inconfortable et que vous préférez ne pas avoir de confidence pour préserver votre relation.
Relation qui est en stand-by pour
l'instant. Qui est, oui, dont vous sentez que vous avez besoin un peu de distance. Mais peut-être je vous conseillerais d'y aller un peu progressivement, Charlotte. Parce que elle risque de mal réagir si elle sent que, au fond, vous la tenez à distance. Déjà, le fait de lui dire ça, elle devrait comprendre un peu. Voyez et ça peut l'amener à réfléchir. Et si vraiment elle est toujours dans cette demande, dire écoute, je suis désolée, mais pour le moment, tout ça m'a un peu perturbée et je ressens le besoin de prendre un peu de distance. Et peut-être que d'ailleurs, ça va vous faire du bien et que vous pourrez la retrouver différemment.
Oui, voyez oui, c'est vrai.
Mais
c'est vrai.
Allez-y peut-être en deux temps. Pour,
voilà. D'accord.
Voilà.
Oh, ben merci beaucoup, Caroline. Je vais faire ça.
Oh, mais je vous en prie. Rassurée. Je vous en prie, oui. Mais l'important, c'est que vous vous sentiez moins angoissée.
Ah oui, complètement. Oh, ça fait du bien. Du coup, je m'assieds, tiens. J'étais toujours en train de marcher.
Bah, vous voyez, vous étiez en train de marcher, oui, quand on a besoin, on se concentre mieux parfois en marchant lorsque on s'exprime sur quelque chose d'important. Je fais un peu comme vous. Mais moi, je suis assise dans le studio parce que si Marc et Paul me voyaient déambuler, ils diraient qu'est-ce qui lui prend
C'est Charlotte.
Je vous embrasse, ma chère Charlotte.
Moi aussi, Caroline.
Bonne soirée. Au revoir.
Parlons-nous. Caroline Dublanche. Sur RTL.
Avant d'accueillir Jess, un petit mot pour vous dire que demain, RTL va ouvrir son antenne, consacrer son antenne à une journée de solidarité avec les étudiants en situation de précarité, avec le Secours populaire. Toute la rédaction d'RTL sera mobilisée dans la matinale d'Yves Calvi. Évidemment, ça va commencer des invités, des entretiens, des reportages dans plusieurs villes où le Secours populaire organise depuis le premier confinement des systèmes d'aide alimentaire. Tout au long de la journée, chez Pascal Pro, dans toutes les émissions, Flavie Flamand, vous pourrez retrouver des témoignages. Dans Tout à gagner également de Bruno Guillon, si vous êtes étudiant, eh bien vous pourrez gagner. Tous les joueurs seront des étudiants, donc restez bien à l'écoute. Vous êtes peut-être parents d'étudiants, vous avez envie de témoigner aussi de leur situation. Vous pourrez appeler le 3210 demain dans la journée et faire des dons auprès du Secours populaire. Tous vos dons iront aux étudiants qui se retrouvent dans des situations souvent d'extrême précarité. Journée de solidarité et bien sûr que le soir, nous pourrons en parler. Si vous le désirez également dans Parlons-nous, si vous êtes étudiant, que vous voulez nous parler de votre quotidien, si vous êtes parent d'étudiants et que vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à votre enfant, à son avenir, vous pourrez bien sûr en parler dans cette émission également.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. h 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
Et si vous désirez me parler, c'est très simple. Je vous invite à composer le standard de Parlons-nous au prix d'un appel local 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi appeler ce numéro si un témoignage vous interpelle, vous touche et que vous souhaitez dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez envoyer un petit SMS. C'est ce qu'a fait Fabienne pour Charlotte qui témoignait depuis 23 heures. Elle dit « Ouh, vous savez, Richard Burton et Liz Taylor se sont remis ensemble cette fois. Alors à voir pour la suite en ce qui concerne votre ami et votre frère. » Fabienne qui ajoute « En tout cas, Charlotte est adorable. Elle est nature. » Et je suis sûre qu'elle va y arriver à prendre de la distance et à trouver les mots pour son ami. Bonsoir Jess.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être reçu par vous et votre équipe.
Ah ben c'est gentil. On est ravis de vous accueillir dans Parlons-nous. Vous voulez nous parler, je crois, d'une rencontre qui vous a beaucoup marqué, enfin qui vous marque, une rencontre que vous avez faite sur Internet avec une jeune femme, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Pour expliquer le plus rapidement possible, on s'est rencontrés pendant la période du confinement, le dernier confinement.
Oui.
Donc moi j'habite, je suis sur Paris, elle est quelque part dans une ville pas loin.
D'accord.
Et j'étais dans le sud à ce moment-là. Mm-hmm. Donc on pouvait pas matériellement se rencontrer, du moins dans un premier temps.
Oui.
Et c'est passé quelque chose de très fort assez rapidement. Bon, dès le départ, je dois dire qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a 18 ans de moins que moi, ce qui est pas rien. Mm-hmm. Mais j'avais pas cherché, hein. Je veux dire, j'avais pas. J'avais mis une annonce qui était très 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 bien écrite, modestement, mais qui cherchait rien de particulier. Et elle a été attirée par mon style d'écriture, parce qu'il n'y avait même pas de photo au début, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Elle a été attirée par mon style d'écriture.
Oui.
Et qui était poétique, c'est ce qu'elle m'a dit. Et rapidement, il s'est passé quelque chose de très fort. Je suis un peu ému parce que ça m'a tellement perturbé.
Oui.
Ça me perturbe encore même. Elle m'a confié son parcours, sa vie, et je me suis pris d'empathie pour elle. Et donc je l'ai beaucoup écoutée et comment dirais-je. L'ayant beaucoup écoutée, je l'ai soutenue, si vous voulez. Elle me racontait qu'elle avait arrêté ses études, qu'au niveau de son métier, elle aurait pu être mieux. Comme moi, j'ai connu ça. J'étais en parfaite sympathie.
Oui.
Et puis, au-delà de ça, il s'est passé quelque chose de très, très surprenant. C'est que moi, je suis essentiellement artiste dramatique, comédien.
Mmh.
Et j'ai un projet, mais depuis longtemps, je veux dire, ça remonte avant le confinement.
Oui.
Jess.
Ouais. Ah, ça a coupé. J'ai eu peur que vous ne soyez plus là. Vous étiez en train de me parler, oui, d'un projet, donc avant le confinement.
Voilà un projet d'ordre artistique, de scène, seul sur la scène, seul en scène.
Au théâtre.
Voilà, c'est ça. À partir de textes poétiques du 19e siècle, un peu poète maudit. Et j'ai vu que cette thématique lui plaisait. Et rapidement, je lui ai proposé, un peu tous les jours, de lui poster des poèmes que je lui proférais. Et de fil en aiguille, ça l'est venu à ce que je file mon texte. C'est-à-dire un texte qui fait à peu près une heure, sans notes, je lui disais mon texte au
Vous
téléphone.
Répétiez avec elle, finalement. Elle avait de la chance, là où on est privé de culture, de théâtre. Mmh. Pour elle, toute seule, elle avait comme ça un spectacle vivant.
C'est ça, vivant, c'est le cas de le dire.
Oui.
Ouais. Et elle aimait beaucoup.
Mmh.
Et moi, j'ai pas peur de le dire, elle est devenue ma muse. Je lui disais même, tu es ma muse, ma maîtresse, ma madone, pour paraphraser le poète.
Ouais.
Parce que vous voyez, elle me plaisait autant physiquement, bien sûr, parce qu'elle m'envoyait des vidéos d'elle, des vidéos très chastes, bien sûr. Hein. Donc elle me plaisait physiquement, j'aimais le timbre de sa voix. Et très rapidement, c'est devenu ma muse. Et j'ai même réécrit mon texte parce que j'ai dû lui donner comme ça 3 ou 4 fois.
Oui.
Et je me suis rendu compte de certaines choses à reprendre, enfin que j'avais envie de reprendre, parce qu'elle m'inspirait.
Elle vous inspirait beaucoup, oui.
Voilà. Mmh. Et ayant repris le texte, j'avais une pêche. Je ne sais pas si elle était du paradis ou de l'enfer, ma pêche, mais j'avais une pêche d'enfer, quoi. Énorme. Mmh. Énorme. Mmh. Et j'étais heureux. Et très rapidement, il y a eu une espèce de moment de bascule, sans analyser plus avant les choses.
Oui.
Elle est devenue très déclarative, quoi. C'est-à-dire qu'elle me disait je t'aime, tu me bouleverses. Elle me faisait des vidéos un peu comme une comédienne qu'elle n'est pas en plus. Et ça me gênait. Ça me gênait parce qu'elle faisait monter la sauce, si j'ose dire. Et moi, je me sentais pris d'une passion que je contrôlais plus. Vous savez, Caroline, je vous fais cette confiance. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler. C'est un peu mon métier d'ailleurs, hein, parce qu'on travaille dans les émotions, mais si on ne se contrôle pas, on part en vrille. Vous voyez, c'est un peu comme le musicien, il doit contrôler son instrument. Et à un moment, c'est allé très 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 loin. Je sentais son désir pour moi et j'essayais de lui dire, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps au téléphone comme ça. Il faut qu'on se rencontre
et
rapidement.
Oui. Et oui.
Et j'avais négocié une première date le 24 décembre, la fin du couvre-feu. Malheureusement, elle partait en Espagne avec son frère une semaine. Du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et après, ça reportait au 16 janvier, le samedi 16.
Oui.
Et là, trois jours avant, s'est passé quelque chose de pas bien au téléphone. Je sentais qu'elle était réticente pour la rencontre.
Oui.
Qu'elle était, j'ai envie de dire, perchée dans l'imaginaire, dans le virtuel. Parce qu'elle m'avait dit, elle est tellement belle, notre relation, que j'aimerais que ça reste comme ça.
Ah,
et moi, j'avais dit, t'as parfaitement raison. J'ai même dit cette phrase. D'ailleurs, je le regrette après coup, j'ai dit cette phrase. Tu sais, les plus belles histoires d'amour, ce sont celles qu'on n'a pas vécues.
Et oui, oui.
Et du coup, parce que je ne vous raconte pas tout ce qui s'était passé dans les discussions, je savais qu'elle avait un ami.
Oui.
Beaucoup plus vieux qu'elle, et beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs, qui a plus de 70 ans, qui se présentait comme un confident, mais qu'elle avait connu quand même par Internet, dans une rubrique d'amitié. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, bien évidemment, je n'ai pas de raison de la remettre en cause, hein, ça, c'est ce qu'elle me dit. Mais je sentais pas trop le truc, parce que j'avais posé des questions, je lui avais dit, c'était une rubrique d'amitié. Mais est-ce qu'il a pas tenté sa chance un moment avec toi? Ben si, c'est vrai, il a essayé de me séduire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben officiellement, il avait une amie ou une compagne, et puis il m'invitait dans des soirées qu'il faisait chez lui, etc. Moi, je me reconnaissais pas le droit de faire le jaloux,
c'est compliqué, oui.
Voilà, puis je la connais pas, en plus, et lui, a fortiori, à plus forte raison, je le connais pas non plus. Mais bon, j'étais pas super à l'aise avec cette histoire.
Mais pourquoi elle vous en a parlé, d'ailleurs?
Oui,
en fait, comment elle en est venue à parler de cet homme, finalement?
Dès le début, elle me l'a dit.
Ah, dès le début?
Ouais. Ouais.
C'est étonnant, non? Je trouve, quand on s'inscrit sur un site de rencontre.
Mais ce qui est étonnant, justement, c'est que moi, j'ai mis mon annonce.
Oui.
Et quand elle m'a répondu, elle m'a dit, est-ce que je peux correspondre avec vous? Et moi, j'ai dit oui, bien évidemment. Mais elle s'est abritée derrière ce genre de formule. Je recherche rien de particulier. J'ai beaucoup aimé votre annonce. J'ai beaucoup hésité avant de vous répondre. Mais je recherche rien de particulier. Et moi, j'ai dit, ça tombe bien parce que moi non plus. Idéalement, je recherche l'amour.
Oui.
Idéalement.
Oui.
Mais je ne le cherche pas de manière obsessionnelle et à tout prix.
D'accord, oui, vous l'avez entendu comme ça au départ, ce que je comprends très bien. C'est finalement parfois quand on ne cherche pas à tout prix que l'on trouve. Mais de son côté à elle, qu'est-ce qu'elle cherche, elle? Et elle vous en a donc parlé assez rapidement de cet homme-là, ce monsieur de 70 ans avec qui elle entretient une relation d'amitié,
un peu de main tort, peut-être, je ne sais pas.
Oui.
Enfin, toujours est-il qu'elle m'en a parlé, comment dirais-je, sur un ton de « est-ce que ça ne te gêne pas que j'ai un confident ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle le met sur le tapis dans une position de presque d'un intrus. Et elle me demande si je le considère comme tel, comme un intrus. Bah, ou pas.
C'est-à-dire que rien que le fait de poser de ce genre de questions, oui, elle introduit un tiers. Mmh. Et ce tiers, finalement, oui, a valeur d'intrus et peut susciter un peu de jalousie.
C'est ça, c'est ça.
C'est pas anodin de l'amener là,
non,
comme ça.
Non, non.
De sa part à elle, hein, je veux dire.
Oui, oui, j'entends bien, j'entends bien. Et du coup, il est resté dans mon champ mental, je dirais, en permanence.
Oui, vous y avez pensé malgré tout, même si vous vous êtes enflammé après.
Oui.
Il était quand même toujours là, un peu, dans votre esprit.
Et une semaine avant la rencontre qui devait avoir lieu,
oui,
au téléphone, elle m'avait dit qu'elle allait passer une journée avec lui. De manière de dire que le soir, il y aurait d'autres personnes qui faisaient une soirée. Un peu étrange quand même, hein, parce qu'on était déjà dans le confinement de 18h.
Je suis d'accord avec vous. Et puis, pourquoi vous le dire? En plus, comme
ça,
la veille où vous allez vous rencontrer, alors que ça fait des mois
jours,
que...
Ouais.
Oui, pourquoi allez-vous dire ça, au fond? Enfin, vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle vous en parlait?
Je ne lui ai pas demandé directement, mais je lui ai fait comprendre que ça n'avait pas lieu d'être.
Oui,
que
je suis d'accord.
C'était pas très adroit. Je ne lui ai pas dit c'est maladroit, mais je lui ai dit pourquoi tu me dis ça? D'abord, ça ne me regarde pas, c'est ta vie privée. On ne se connaît pas suffisamment pour que tu me fasses ce genre
de
confidence.
C'est un peu de la provocation vis-à-vis de vous.
J'ai l'impression.
Oui.
Surtout rétrospectivement, pardon. Oui. J'ai cette impression-là.
Oui.
Parce qu'une semaine avant la rencontre, justement, je me souviens, c'était un samedi, elle m'avait dit qu'elle avait passé la journée avec lui, elle m'a appelé le soir, il était quoi, 22h, quelque chose comme ça, donc relativement tard, sans être excessivement tard, mais quand même, et je la sentais pas super à...
Oui.
Je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je suis fatigué. Bon, d'accord. Et ça s'est bien passé, ta journée? Pas tellement. Ah bon, pourquoi? Parce que le soir, il y avait du monde, j'arrêtais pas de penser à toi, c'est mon prénom à moi, qui me venait en bouche. Et puis, immédiatement, j'ai dit, tu lui as parlé de moi, ce monsieur? Oui. Et là, peut-être que j'ai parlé trop vite, mais je lui ai dit, et il t'a sûrement dit des choses pas très saines sur moi. Il t'a dit, c'est grave, c'est dangereux, etc. etc. Elle m'a dit, oui. Et là, immédiatement, je lui dis, mais tu sais quoi? On est en position de rivalité, quelque part.
Complètement.
Donc, c'est pas très sain. Et elle a compris que j'étais
dans... Vous vouliez pas rentrer dans ce jeu-là.
Voilà. Et le lendemain, on a reparlé au téléphone, le dimanche après, elle est dit, c'était très bien, c'était tendre, affectueux. Mais le mercredi suivant, ça c'est bizarre, hein, parce qu'on dirait un film avec un compte à rebours, hein. Mais c'est ça. Le mercredi suivant, donc on était à jeudi, vendredi, samedi, 3 jours avant notre rencontre.
Oui.
Étant précisé que j'étais encore en région, et que moi je prenais le train le surlendemain pour revenir sur Paris, que j'avais réservé bien à l'avance.
Oui.
Et là au téléphone, avant le téléphone, on avait rendez-vous. On avait prévu de se parler le soir sans fixer d'heure, bien sûr, mais elle ne m'appelait pas. Le temps passe, je l'appelle, ça répond pas, et puis elle finit par m'envoyer un SMS où elle me dit « Je peux pas te répondre, je suis en train de t'écrire un mail ». D'accord, pourquoi pas. 30 minutes après, ou je sais pas combien, 40, peu importe, toujours pas de mail. Je la relance, non pas que je sois impatient, mais j'ai dit « Mais...
Oui. »
Apparemment, tu veux m'écrire quelque chose qui passe pas par le
qu'est-ce qui se
par
passe,
l'oralité.
Oui. Oui.
Il y a quelque chose de grave qui se joue.
Oui.
Elle me dit non, pas grave, mais important. Bon, je prends l'initiative de l'appeler. Je force un peu le coup, si j'ose dire. Elle me répond. Et là, je la sens vraiment. La première question qu'elle me pose, c'est et si on se voyait pas ce samedi, ça te dérangerait pas?
Ouais.
Et moi, je réponds du tac au tac, sans agressivité, hein. Doucement, je lui dis, disons que moi, j'ai organisé mon retour le vendredi.
Oui.
Je rentre vendredi soir. On pourrait très bien reporter, mais je vois pas pourquoi. Tout est prévu, tout est préparé. On avait une espèce de rituel. Moi, je devais acheter un DVD pour lui faire voir un film dont je devais beaucoup parler, qu'elle ne connaissait pas. Je voulais lui faire découvrir, première chose. Deuxième chose, je voulais lui faire don cadeau modestement, mais c'était important pour tous les deux, de mon spectacle en chair et à l'os, et non pas derrière un téléphone. Donc j'étais vraiment motivé pour la chose. Et puis après, le reste, c'était la surprise, si j'ose dire.
Ça faisait combien de temps que vous échangiez, là?
Globalement, je dirais 2 gros mois, à peu près.
D'accord.
C'est à la fois très court et très long, hein, parce qu'on s'appelait tous les jours.
Oui, vous vous appeliez tous les jours, d'accord.
Et c'était des discussions qui allaient entre 2 et 3 heures. C'était trop, d'ailleurs. C'était trop. C'est un peu addictif, quelque part.
Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle ne travaillait pas, elle...
Si, justement, c'est déjà revu en point de départ.
Il faut avoir le temps, la disponibilité.
Officiellement, donc elle a la petite trentaine, officiellement, elle est psycho-spécialisée dans l'enfance. Un peu comme vous, tiens, ça me fait penser d'ailleurs, c'est drôle. Et elle travaille dans une crèche, coordinatrice pédagogique, m'a-t-elle dit. Un boulot qui ne correspond pas à ses compétences. Et puis surtout, elle m'a fait comprendre qu'elle avait arrêté ses études prématurément. Moi, j'ai connu ça. Hein. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais moi, j'aurais dû être avocat. Et j'avais arrêté prématurément à 30 ans parce que j'avais pété les plombs. Quoi.
Elle était psychologue parce que elle
C'est
parle
ce qu'elle m'a dit.
D'arrêter ses études prématurément.
Bah, disons
qu'elle
était
au moins 5 ans après le bac.
Elle m'a dit, je ne veux pas donner des noms, mais elle était prise d'un institut qui est très connu à Paris.
Ah oui, d'accord, donc c'est pas par le circuit universitaire.
Elle avait fait le circuit universitaire, mais c'était après qu'elle était prise dans ce plan.
D'accord. Donc finalement, elle vous dit, parce qu'elle elle était soi-disant en train de vous écrire un mail, vous parlez de cette rencontre, vous sentez qu'au fond, elle ne va pas avoir lieu. Mais qu'avait-elle à vous dire d'important? Puisqu'elle vous dit, non, j'ai quelque chose à te dire d'important.
Ben en fait, moi j'ai l'impression que... Parce qu'elle ne me l'a pas vraiment dit.
Elle ne vous a pas envoyé ce mail finalement?
Non, il n'a jamais existé.
Et elle ne vous a pas dit ce qu'elle avait à vous dire d'important?
Ben moi j'ai l'impression que... Parce que je vais vous expliquer le clash qui va arriver.
Oui.
J'ai l'impression qu'elle voulait juste me dire qu'elle voulait reporter le rendez-vous parce qu'elle n'était pas prête.
Oui. C'était le premier rendez-vous que vous vous fixiez?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui.
D'accord.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais inspiré, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à lui dire la chose suivante. Je lui dis, tu sais, notre relation, c'était pas négatif, hein, notre relation, littéralement, elle est un peu spectrale, fantomatique. Moi qui suis un descendant, modestement, de Louis Jouvet, qui avait écrit Le comédien désincarné, puisque le comédien, il incarne ce qui est désincarné, c'est-à-dire un texte. Notre relation, elle est désincarnée. On est au téléphone, on s'envoie des vidéos, des sons, des voix, mais notre corps n'existe pas et il est temps qu'on passe justement à l'incarnation, quelles qu'en soient les modalités.
Que vous lui montriez votre spectacle en chair, plutôt qu'en os d'ailleurs.
Oui, et sans arrêt.
Il n'y a pas d'os.
Non. Et comment dirais-je et quand je lui ai expliqué ça, elle me dit, oui, on me l'a dit. Et moi, spontanément, sans réfléchir, sans arrière-pensée, je lui dis, mais on, qui, on ?
L'autre.
Et j'ai même pas pensé sur le coup, hein, vraiment. Et je lui dis la phrase suivante, tu sais que on est un con, enfin, c'est un proverbe un peu imbécile. Mais... Et je lui dis, c'est qui ? C'est ton coach personnel ? Puis elle me fait un petit rire de gorge, comme ça, qui me fait craquer généralement, d'ailleurs. Et, parce que j'ai même pas pensé à ce monsieur. Et puis, elle me dit, oui, on peut dire ça. Et c'est là que j'ai eu l'éclair, je me suis dit, mince. Voilà le rival qui refait surface, ou qui fait surface.
Oui.
Et là, je me suis senti agacé.
Oui.
Et je lui ai lancé une phrase assassine que j'ai regrettée après. Mais dans ma tête, elle n'était pas violente, ma phrase. C'était du cynisme, une espèce d'humour noir, où je lui ai dit ceci, en substance, bien sûr, je ne me suis pas enregistré, mais je lui ai dit à peu près ceci. Ah, mais c'est vrai. Toi, tu es attiré par les messieurs très vieux, et moi qui suis plus vieux que toi, finalement, je suis encore trop jeune. Et puis, j'ai employé un mot sûrement cruel. Dans ma tête, je ne faisais pas allusion au fait de se faire entretenir au niveau de l'argent. Mais je lui ai dit, pardon, t'as envie de te faire entretenir par des messieurs d'un certain âge. Et là, sa voix s'est décomposée. Un timbre de voix complètement étrange que je ne connaissais pas, et paf, elle raccroche au nez.
Oui.
Et pendant une semaine,
oui.
Oh, aucune nouvelle, rien du tout. Alors notre rendez-vous est passé à l'as, par définition, mais c'est surtout que je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir. Moi, je lui envoyais des messages où je lui demandais pardon, parce que je suis quelqu'un de courtois et de poli, je ne présentais pas mes excuses, c'était dans mon attitude, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas te faire de peine, loin de moi cette idée, je voulais peut-être te faire
vous
réagir.
Vous avez blessé, vous vouliez la faire réagir, elle vous avait blessé aussi.
Mais c'est ça.
En vous mettant en rivalité très consciemment avec cet autre homme, enfin,
c'est
qui
ça,
existe,
c'est
qui n'existe pas, bon, peu importe, mais voilà, au fond elle vous met en rivalité.
C'est ça.
Donc vous avez réagi, vous étiez blessé.
Et donc, pendant une semaine, aucune nouvelle. Et puis, j'ai réussi, à force d'insistance, à l'avoir une semaine après au téléphone. J'avoue que j'ai fait une grosse bêtise. On est resté 2h30. Pendant les deux premières heures, j'étais en mode monologue.
C'est elle qui a rappelé ou c'est vous enfin...
C'est moi. Enfin, en fait, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu.
Oui.
Puis elle m'a envoyé un message, un texto.
D'accord.
Et j'ai rappelé derrière, elle a répondu.
Oui.
D'accord. Et pendant 2 heures, j'ai beaucoup trop parlé, mais au bout de la dernière demi-heure, j'étais plus dans l'empathie. Et là, elle n'arrêtait pas de me dire, ah, je suis contente de t'entendre. Mais le lendemain, retour de cette attitude que je ne comprends pas.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe?
Elle m'a envoyé un SMS en me souhaitant une bonne journée, un truc comme ça. Et en signant affectueusement, c'est-à-dire une phrase volontairement distante. Et à partir de là, elle arrête de me donner des nouvelles.
Bon.
Et là, je me suis énervé. Enfin, quand je dis je me suis énervé, je veux faire cette confidence, je ne me suis pas énervé. J'ai senti venir une espèce de sentiment dépressif. Parce que j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais... Je suis victime de rien du tout, hein. Je me pose pas en victime.
Oui, mais elle joue avec vous.
Elle a fait monter. Oui. Parce que moi, vous voyez, à un moment, elle m'a dit ceci. Elle m'a dit
continuer à se parler, hein, Jess, mais ce sera après les infos. D'accord?
Ah oui, d'accord.
Vous allez me dire ce qu'elle vous a dit dans une poignée de minutes. À tout de suite, Jess.
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Parlons-nous sur RTL de tous les sujets qui vous concernent. L'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi composer ce numéro si vous souhaitez bien sûr me parler, mais réagir également à un témoignage. Vous pouvez le faire par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, ou encore sur notre page Facebook RTL-RTL. Parlons-nous sans plus attendre. On va retrouver Jess. Donc Jess, vous nous avez expliqué, depuis 2-3 mois, vous conversez tous les jours avec une jeune femme qui vous plaît énormément, qui est votre muse. Au départ, cette relation vous rend très euphorique. Et puis, vous dites qu'au fil du temps, et face à ses réactions, à cet homme dont elle vous parle, beaucoup plus âgé... elle vous met clairement en rivalité avec lui, vous vous sentez un peu envahi par un vide dépressif. Et on en était resté au fait que passer un peu votre coup de sang, mais moi je trouve personnellement qu'il était tout à fait légitime au vu de la façon dont elle se comportait. Bon, vous vous rappelez, vous parlez vous beaucoup, et le lendemain, un message où elle vous dit, enfin, on en était resté là, elle allait vous dire quelque chose.
Oui. Non, un message d'une banalité confondante, où elle me souhaite une bonne journée, en signant affectueusement, alors que d'habitude c'était des mots d'amour, un peu confiture. Et ce que j'allais dire, c'est que cette histoire, c'est difficile d'en parler comme ça, parce que j'ai l'impression qu'elle a fait monter toutes les émotions. Moi, je suis un être d'émotions, je vis avec ça, je travaille avec ça et j'aime les émotions. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, j'aime les contrôler, ne pas me faire déborder. Et, par exemple, je vais donner des exemples. À un moment, parce que vous imaginez bien, c'est normal, c'est naturel, il n'y a rien de malsain là-dedans. Mais à force de parler comme ça pendant des heures, il y a du désir. Le désir est alimenté par l'imagination, bien sûr, mais il repose sur le timbre de la voix, les confidences, les chuchotements, etc. Et moi, je me suis dit, c'est dangereux. Parce que je ne veux pas tomber dans le piège, ça y est, on se désire au téléphone. Non, seule la vie réelle est intéressante. Mais elle m'a entraîné sur ce chemin-là.
Et oui, bien sûr.
Et donc, je me suis senti partir. Et ces déclarations d'amour étaient tellement fortes. C'est là où il y a eu... J'ai pu vous assurer que c'est... Je ne suis pas lucide sur mon cas. Parce que je me demande, est-ce que j'ai été manipulé volontairement? Ou est-ce qu'elle est victime de sa propre personnalité? Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire « J'espère que tu ne vas pas disparaître. » Alors que notre conversation était normale. Elle me disait « J'espère que tu ne vas pas disparaître. Et si ça ne marche pas entre nous, on restera des amis.
Ben »
Mais je disais « Mais tu mets la charrue devant les bœufs, ça ne se pose pas.
Ouais.
Il faut d'abord se rencontrer dans le réel.
Oui. »
Et en fait... comme si elle préparait cette espèce de retournement, puisque c'est elle qui est partie. C'est elle qui m'a claqué la porte au nez, la porte du téléphone en l'occurrence.
C'est-à-dire depuis ce message où elle signe affectueusement, vous n'avez plus de nouvelles?
Ben, j'ai eu des nouvelles. Je vais vous expliquer. En fait, bon, j'ai fait une grosse bêtise, mais que j'assume. Parce que ce n'est pas une bêtise, ce n'est pas un acte manqué.
Oui.
C'est même assumé. J'ai remis une annonce sur le même site. Sauf que je l'ai écrite dans le même style. Sans photo, mais dans le même style.
Oui.
Donc, si elle la voyait, elle m'identifiait.
Oui, bah, très bien.
Et ça n'a pas loupé.
Très bien.
Elle m'a écrit en me disant, je vois que tu es parti dans la quête d'une autre.
Oui.
Finalement, c'est mieux comme ça. On se serait fait du mal, et patati et patata.
Voilà.
Et puis, elle me dit, à partir de maintenant, je ne te répondrai plus. Et attention.
Oui.
Parce que là, la suite, elle est complètement, sinon tordue, du moins tourmentée, je vous explique.
Oui.
Je ne vais pas citer mot à mot, hein, mais elle m'a écrit ceci. Elle m'a dit, je te remercie parce que tu m'as fait un apprentissage accéléré de la vie.
Oui.
Elle faisait allusion
à... C'est toujours très grandiloquent. Hein.
Ouais, énormément grandiloquent.
Quand même, hein. Oui.
Dans l'emphase la plus absolue.
Oui.
Et attendez, le pire est à venir. Et elle me dit, j'ai adoré quand tu répétais ton texte, tu m'as fait découvrir d'autres choses, et je suis convaincue qu'un jour, tu brilleras par ta présence sur une scène, toi tu seras vivant sur la scène, et peut-être qu'un jour, moi je serai au fond d'une salle dans le noir, et je ferai partie des morts vivants. Et attention, et elle signe une phrase. Et attendez.
Pardonnez-moi.
Non, mais je vous en prie. Je vous en prie, votre rire est signifiant. Parce que c'est tout à fait ça.
Oui, moi, c'est trop, là.
Attendez. Et moi, étant tellement dans le... Non, au contraire, Caroline. Au contraire. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, je vais vous faire une remarque personnelle qui n'engage que moi.
Oui.
Ce que j'aime chez vous, c'est votre spontanéité, vous voyez. Vous voyez, ça,
bon,
ça me plaît.
Bah oui,
voilà.
Merci.
Voilà. Et attendez, le pire est à venir. Et elle me signe, elle met une citation, comme dans un devoir bien écrit, une citation d'une poétesse où elle écrit, entre guillemets, « C'eût été beau de s'appeler ta bien-aimée ». Vous voyez un petit peu le truc. Vous voyez le truc.
Oui. Oui, je vois complètement. Oui, c'est complètement sublimé, magnifié.
Déplacé, j'ai envie de dire.
Et complètement. Enfin, au départ, on se disait, ça pourrait faire, vous qui aimez les mots, qui allez sur scène interpréter justement les mots des autres, qui... cette histoire, ça pourrait être... on pourrait l'écrire, au fond. On pourrait l'écrire et... telle qu'elle, vous voyez, quand elle dit un jour tu brilleras, tu seras sur scène, et moi je serai dans la salle. Je me disais, vous voyez, il y a quelque chose à écrire autour de ça, sur une rencontre pendant 2 mois. Vous ne vous êtes jamais rencontrés, et elle viendrait comme ça dans la salle, dans le noir, vous contemplez, mais le coup des morts vivants, c'est pour ça que j'ai éclaté de rire, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Il y a quelque chose là qui colle pas, qui est complètement décalé. voyez, qui est complètement décalé.
Et je vais vous donner une information importante que j'aurais dû dire plus tôt, parce que ça aussi, rétrospectivement, c'est très étrange. Oui. Quand elle s'est présentée à moi, au début, elle me disait, d'ailleurs, elle m'a dit, j'ai quelque chose à te dire d'important. Puis avant de me révéler la chose, elle me dit, je vais donner deux... Vous voyez le côté littéraire un peu tordu.
Oui.
Je vais te donner deux références.
Oui.
Et ces références, c'était Paul de Carotte. Paul de Carotte. Et d'autre part, La lettre au père de Kafka. Je ne voyais pas du tout ce qu'elle voulait.
Effectivement,
et en fait, elle voulait en venir, soi-disant, au fait qu'on pouvait être malheureux dans sa propre famille. Et elle s'était présentée comme une enfant battue par son père.
Oui.
Au début, j'ai cru.
Ben oui.
Maintenant...
Maintenant, je comprends vous ne savez pas.
Voilà, je suis complètement dans le trouble. Mais toujours est-il...
Mais bon...
Parce que moi, je suis passionné par l'histoire de l'art. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ou c'est à Paul que je l'ai dit au téléphone. Moi, je suis un multi-passionné, humblement.
Non, vous ne l'avez pas
dit. Entre autres choses, j'ai deux passions, qui sont l'histoire des religions et l'histoire de l'art.
Oui.
C'est
lié, en fait.
Voilà.
Oui, pour,
Et j'ai le culte du beau. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le culte du beau. Donc, la beauté plastique, par définition, mais pas que la beauté plastique, la beauté de l'âme, la beauté des choses. Et là, rétroactivement, et c'est bizarre parce que c'est ce que vous venez de me dire, j'ai un vague projet. Mais il faut que je passe de l'autre côté de la vague, des émotions, parce que là, bon, ça va mieux. Ce soir, j'ai pu vous appeler.
Oui, il faudrait
parce
écrire,
que passé,
enfin.
Parce que, voilà.
Mais on voit bien les références. Là, à un moment, on était dans Shakespeare. Et puis, bon, là, on voit d'autres références. Elle était certainement magnifiée, sublime. Elle voulait renvoyer une image d'elle-même très gratifiante et pareillement la réciproque est vraie pour vous, voyez, avec quelque chose de très sublimé, si ce n'est qu'à un moment il y a d'autres références qui apparaissent, celles des morts vivants et là on bascule dans le gore.
Ouais, exactement.
Voyez, on n'est plus dans la littérature. Bon, et c'était peut-être là un des aspects des facettes de cette jeune femme, mais franchement c'est à mettre un peu sur le papier, il y aurait à écrire là-dessus. Et cela dit, encore une fois, je comprends que vous ayez été transporté, et même, vous l'avez dit, très euphorique au début. Il y avait quelque chose de grisant dans cette rencontre. Et vous, en plus, étant confiné, ne pouvant pas répéter vos textes, là, vous aviez cette première spectatrice. Enfin, il y avait quelque chose de très beau. Mais au fond, cette femme... Vous ne savez pas qui elle est, finalement.
Non.
La barre a été placée tellement haut, quand elle vous l'a dit, d'ailleurs, cette relation est si belle, qu'au fond, le réel ne pourrait presque que décevoir. Et parfois, dans ces relations où on va très loin, comme ça, on a peur de la rencontre. Parce qu'on s'est construit une telle image de l'autre et aussi de soi-même qu'on a peur que le réel nous déçoive.
Vous savez, Caroline, modestement, pour ma part, le réel ne me fait pas peur.
Oui, mais vous aviez raison de lui dire à un moment que, à un moment, c'est bien beau le virtuel et le fantasme, mais que c'est bien aussi d'être dans la vie et que y a la vie aussi, il faut l'empoigner, il faut la vivre pleinement et le désir. Or là, elle n'était pas là-dedans. Au fond, vous ne savez rien d'elle, vous dites à un moment mytho, oui, c'est possible. Cette histoire d'homme de 70 ans, ça se trouve, il n'existe pas. En tout cas, vous, heureusement qu'à un moment, vous avez, parce que dans ces provocations, vous avez réagi. Et je trouve qu'il n'y a pas lieu de vous en vouloir là-dessus. Et c'est ce qui a commencé à finalement faire un peu retomber ce schéma très... comment dire, très fantasmé, très idéalisé, vraiment. Elle laisse. C'est ce que dit Cathy. Cathy d'ailleurs, qui dit curieusement, ça me rappelle ce que fait une de mes amies sur les réseaux. Elle ne veut jamais rencontrer les hommes. Elle laisse planer un flou artistique. Et puis il y a Laurence, il y a Michel qui dit mais ça pourrait être une vraie pièce de théâtre, un scénario de film. Il y a Sergio qui dit voilà, stop au virtuel, on revient dans la vraie vie, le concret, le réel. Vous, vous pouvez vous mettre en scène. Voilà. Justement, vous avez cette chance-là.
Oui,
donc, et dans la vie, c'est bien de se mettre en scène et c'est bien aussi, je suis d'accord avec vous, de vivre des histoires, des rencontres, des étreintes réelles et pas seulement par écran interposé. Mais elle ne veut pas.
Voilà. Moi, je le revendique. D'ailleurs, voyez, je le lui ai dit sur l'enregistrement, parce que j'ai laissé beaucoup de messages, trop. Hein. À la limite, je satisfaisais mon pauvre ego froissé. J'arrêtais pas de lui dire des choses comme ça. Ouais. Toi, tu me donnes l'image d'une Emma Bovary éternelle. C'est magnifique, c'est la culture. Ça nous sauve la vie, la culture, la littérature, les arts, ça nous sauve la vie. Oui. Mais
enfin, Emma Bovary, elle était au moins dans la réalité. Elle avait des amants.
Elle était au moins dans la réalité,
voyez, alors
bien
que vous restez voilà, derrière un
écran. J'y disais justement, je ne parlais pas de moi parce que moi je reste modeste, mais il y en a qui en font leur métier de l'imaginaire. Ils écrivent des bouquins, ils font des tableaux.
Et vous jouez avec cela vous aussi.
Voilà,
mais elle en joue. Et sur les réseaux sociaux, c'est très facile en fait de se planquer derrière un personnage. Et au fond, alors on ne sait pas et on ne le saura jamais, à la limite peu importe. Mythomane, on peut se raconter une vie. Finalement, la crainte de décevoir. Parfois plus que d'être déçu, voyez. Enfin, elle vous entraînait dans quelque chose où il était temps d'y mettre un terme. Parce que vous avez été sur un versant très euphorique et je comprends très grisant et aussi intellectuellement, enfin très stimulant.
Oui.
Et là, finalement, ça basculait dans quelque chose qui devenait plutôt une pièce de boulevard. Et je n'ai rien contre le théâtre de boulevard.
Oui, j'entends bien.
Ça très bien. J'entends. Voyez. Donc, à un moment. Bon, il faut savoir arrêter. Et finalement, ça peut vous inspirer. Et vous avez très bien fait de remettre cette annonce. Vous voyez à quel point ça la titille. Mais maintenant, vous ne lui répondez plus. Et en revanche, n'attendez pas trop avant de rencontrer quelqu'un.
Bien sûr.
Vraiment.
Mais vous savez, je veux dire, j'ai vraiment traversé l'enfer. Parce que pendant 3 semaines... J'étais physiquement tellement mal angoissé.
Oui,
je prenais des trucs pour dormir. Mm. Et là, ça fait 5000 piles. Ça va être la 6e ce soir où je me dis c'est fini. Parce que
c'est tordu.
Voilà, voilà. Mais le problème, vous voyez, je vais pas citer François Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, mais j'ai tellement besoin d'avoir une muse dans ma vie. C'est une souffrance. D'ailleurs, vous voyez, c'est la dernière phrase du dernier métro de Truffaut avec Depardieu et Catherine Deneuve. T'aimer est à la fois un plaisir et une souffrance. Et moi, l'amour, chez moi, c'est ça. C'est à la fois mes plaisirs. Attention,
vous êtes un grand idéaliste.
Ah, complètement.
Oui, attention.
Je suis un idéaliste, je le revendique.
Bon. Mais
je suis un idéaliste concret.
Ouais.
Vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, la muse...
Pas trop, là, dans ce que vous nous racontez, vous avez un peu basculé, attention.
Ah, là, j'ai basculé.
En tout cas, moi, je vous conseillerais de ne plus répondre. Parce que d'abord, quand vous avez remis cette annonce et qu'elle a tout de suite répondu, ça veut dire qu'elle-même, elle était sur ce site.
Bah oui.
Elle y est toujours.
Bah oui, elle y va,
donc,
oui.
Elle cherche d'autres. Quand à un moment, le miroir se brise, elle va chercher d'autres. Alors, je ne dis pas qu'elle le fait... il y a des gens qui... existent de cette façon-là. Parce qu'ils ont du mal à exister dans la réalité. Donc, ils existent comme cela. Mais à un moment, vous, il faut couper court parce que ça devient plus du tout bénéfique pour vous. Alors, il y a Alice qui dit, oui, le virtuel, ça a des avantages, mais dans certains cas, ça peut devenir assez néfaste, pour ne pas dire toxique. Il y a Clotilde qui dit, attention à l'écran Prozac. Elle dit, oui, l'écran qui fait figure office d'antidépresseur, et qui nous console, qui nous rassure, qui nous renvoie aussi un miroir de nous-mêmes, dans la meilleure version de nous-mêmes. Alors, elle conseille le livre que je conseille souvent, du psychanalyste Pascal Coudert, L'amour au coin de l'écran, qui en parle de ses amours virtuelles et des effets qu'elles ont psychiquement, parce qu'on peut effectivement tomber dans un vrai chagrin d'amour sans avoir rencontré la personne, parce que la relation est virtuelle, mais vos sentiments, vos émotions ne le sont pas. Et donc il explique très bien cela, et c'est rare que les psychanalyste se penche sur ces faits-là. Or, on est dans cette ère du virtuel. Clotilde qui ajoute, avec une telle classe, Jess doit faire tomber beaucoup de femmes. Nous attendrons donc la prochaine muse, dit Clotilde. Voilà. Il y a Fabienne, elle dit, oh là 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 là, attention Jess, elle est un peu manipulatrice, voire un petit peu cinglée, je cite Fabienne. Dire donc, prenez vos distances.
Mais vous savez, voilà. En même temps, oui. J'ai eu l'image de la femme enfant.
Oui, mais attention à ça.
Et la femme enfant, ouais. Souvent, c'est toxique. Enfin, j'aime pas tomber dans les stéréotypes.
Si, si, mais enfin, oui, je suis d'accord avec vous. La femme enfant plaît beaucoup aux hommes, le désir de protection et tout. Mais à la longue, c'est un peu suant, hein, une femme enfant. Hein. Vous voyez, à un moment, on a envie de dire « grandis, ma grande ». Bien, enfin, quelques réactions aussi sur Facebook, RTL-parlons-nous peut-être, Paul.
Il y a pas mal de réactions. Là, je vais vous donner le premier message qui est à contre-courant des autres. C'est Françoise qui dit bah, « cette dame semble craindre le face-à-face, n'aurait-elle pas un corps dont elle souffre ? Peut-être un handicap ?»
Voilà. C'est possible, parce qu'en plus, on peut mettre une photo qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Ah non, mais attention, j'avais des vidéos d'elle, hein, elle me faisait des vidéos que je n'ai reconnues.
Donc elle n'a pas un corps...
Donc elle était
elle a
très
un corps.
Jolie.
Ouais.
Bah, désolé Françoise.
Je l'ai vu.
Mais ça peut arriver. Dire, oui, voilà. Mais vous voyez à quel point elle joue. Elle joue, ouais. Elle fait monter l'attention, votre désir. Bon, avant on dirait c'est une allumeuse. Maintenant on allume aussi via les réseaux sociaux.
Et puis surtout ce qui me gênait, moi qui suis comédien modestement, ouais. elle minaudait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça me gênait.
Oui, bah oui, parce qu'à un moment effectivement ça reflète une absence de sincérité. Paul, d'autres réactions ?
Myriam, qui aussi dit dans le récit de Jess, ils ont entretenu une relation de fascination et c'est difficile de redescendre vers une rencontre plus simple par la suite. Maïté, qui dit, elle a repéré un vide qu'elle-même avait, elle s'y est engouffrée, la relation a nourri un espoir, il fallait s'y attendre un petit peu. Sylvie aussi, qui dit, les sites de rencontres, un peu plus générales, que de choses inattendues, que de chimères, on fantasme, on sublime, on y croit et on se noie, que d'investissement pour un résultat proche de zéro. Voilà pourquoi moi j'ai abandonné depuis un bail. Rien ne vaut une rencontre de face à face où on jauge l'autre avec une communication non verbale qui vaut 1000 discours. Et oui, c'est les premières minutes que ça se passe. On gagne du temps dans cette communication verbale. Courage, Jeff. Il y a de gentilles filles hors de ces sentiers. Bien glauque, dit Sylvie. Et alors, Lielgen, qui parle des sites de rencontres, elle dit « Certaines aiment beaucoup jouer ainsi, mais au moment de se rencontrer, plus personne. » Et certaines ont fait des paris même et rigolent ensemble avec leurs compagnons.
Ah bon,
ça existe.
Ah bon ?
Alors, moi, je ne savais pas ce que dit Jen. C'est un jeu malsain.
C'est Jen qui dit ça ?
Eh oui, oui.
Bah, ça serait bien qu'elle nous appelle parce que visiblement, elle a
si elle est au courant,
une expérience. Avec... Peut-être avez-vous vécu quelque chose comme cela. Moi, j'ai découvert, quand j'avais invité ce psychanalyste, Pascal Couderc, je me disais, au départ, je vous avoue que j'avais du mal à comprendre parce que j'avais des personnes qui m'appelaient et qui étaient dans un parfois profond chagrin et avec une histoire qui avait duré parfois pendant des mois où ils n'avaient jamais rencontré la personne, mais en fait, ils s'étaient beaucoup investis. Et il y avait une présence quasi quotidienne. Et en fait, oui, mais j'avais bien sûr compris que même si on était dans le virtuel, parce qu'il n'y a pas eu de rencontre réelle, ce que ça déclenchait en eux, en vous, en l'occurrence, tous ces sentiments, ces émotions, elles ne sont pas virtuelles. Et que c'est beaucoup plus difficile de faire le deuil, finalement, d'une relation que l'on n'a pas vécue.
Parce qu'on n'a pas pris sur une réalité.
C'est ça, que l'on a... Alors, en même temps, vous qui aimez tant être dans le contrôle, il y avait un sentiment où il y a eu un moment où vous aviez certainement le sentiment de contrôler. Et à un moment, ça vous échappe. Mais c'est bien que ça vous échappe. Il y avait trop de contrôle dans l'histoire. Trop de contrôle, y compris par rapport à l'image que l'on veut donner à l'autre. Et dans l'amour, dans la rencontre amoureuse... À un moment, il y a une forme d'abandon. C'est-à-dire qu'on est fauché, littéralement. Fauché. C'est-à-dire que c'est justement tous ces sites de rencontres où il y a tant de critères. À force de mettre tant de critères, on passe à côté de la véritable rencontre. Celle qui nous bouscule. Celle qui fait qu'on ne contrôle plus rien. Donc, des muses, oui. Et pas trop dans la vie réelle, j'ai envie de dire, mon cher Jess. En tout cas, merci, parce que votre histoire nous a fait vibrer. On sent que vous êtes comédien et vous nous l'avez fait partager intensément. Mais il faut revenir à la réalité, répéter, et puis on espère vous retrouver sur scène le plus vite possible. Je vous embrasse.
Je vous embrasse aussi. Merci.
Au revoir, Jess. Et oui, vous êtes toujours les bienvenus ici. Vous êtes chez vous dans Parlons-nous. Et si vous voulez nous laisser un petit message, on parlait des rencontres par Internet. Peut-être que vous, vous avez vécu comme ça une histoire, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis c'est retombé comme un soufflé au fromage. Vous ne vous êtes jamais rencontré. 09 69 39 10 11. On pourra en continuer à en parler ce soir. Si vous le voulez, dès 22h, on sera là. D'ici là, passez une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Je vous embrasse bien fort.